Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère au 88.4, vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 23 juillet, en direct de 19h à 20h, et vous pourrez retrouver cette émission demain de 9h à 10h, puis sur Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui, chaque jour, s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Félix Tédelin et je suis accompagné de Elissa Guillon.
Bonsoir.
De Jeanne Ray en régie.
Salut.
Et nous recevons aujourd'hui une partie de l'équipe du Centre Social Sainte-Marthe-la-Paternelle. Donc Oussam Zgeb, tu es le directeur du centre.
Oui, bonsoir.
Et tu es venu accompagner Dana Canales,
Canales,
coordinatrice Enfance-Famille.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Merci.
Alors, comme vous le savez, donc, cette émission, elle s'axe en trois parties. Donc, on va parler d'abord de vos parcours, surtout du tien, Oussam, je crois. Et ensuite, on parlera de l'initiative que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui. Et enfin, de comment celle-ci s'inscrit dans une société désirable. Voilà. Donc moi j'avais noté une question en fait sur laquelle vous pourriez répondre tous les deux, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler dans les centres sociaux ?
Tu veux commencer ? Non, je commence. Moi j'ai pas du tout fait d'études là-dedans. J'ai commencé dans le tourisme et dans le vin, donc ça avait vraiment rien à voir. Mais j'ai beaucoup travaillé en animation avec des enfants et suite à un service civique, j'ai eu la chance de travailler au CIDFF, donc au Centre d'information des droits des femmes et des familles. À Bordeaux. Et après, quand je suis arrivée à Marseille, j'avais envie de continuer à travailler avec différents publics. Je ne savais pas trop exactement, mais je savais que je voulais travailler dans le social. Et j'ai vu cette mission, enfin cette fiche de poste pour être coordinatrice enfance-famille au CCO. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais les missions me donnaient envie. Du coup, j'ai un peu tenté sans avoir beaucoup d'espoir. Et au final, ça fait 2 ans que je suis là.
Bien. Voilà. Et donc, néo-marseillaise depuis 2 ans ?
Non, ça fait 4 ans que j'habite à Marseille.
Ok, super. Ouais.
Moi, ça fait 10 ans que j'habite à Marseille. Moi, je suis... à la base, j'étais censé être avocat à Damas aujourd'hui, si tout va bien. Par contre, il y a eu la guerre, donc je suis arrivé en France en tant que réfugié au départ. Là, aujourd'hui, je suis franco-syrien. J'ai repris mes études et j'ai commencé à travailler dans l'asile. À l'époque, j'essayais de faire court.
Pas besoin. Hein.
J'ai travaillé dans l'asile, j'ai fait une formation sur les questions géopolitiques pour une équipe de l'ESPADA. Et à l'époque, on a travaillé sur la question des gens du voyage à un moment. Et donc, j'ai vu une offre d'emploi directeur de centre social sur l'aire d'accueil des gens du voyage. J'ai postulé, j'ai été pris. Et ensuite, c'était réussi. Donc, on m'a proposé ce poste-là à Sainte-Marthe et je suis arrivé il y a 2 ans aussi.
Incroyable. Donc, deux parcours en fait assez inattendus. Et ce n'est pas du tout ce que vous vouliez à la base, espériez
Ben moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Ouais. Mais en fait, je n'aurais pas pu savoir à l'avance que c'était ça que je voulais, je pense. Et du coup, je l'ai découvert vraiment sur le terrain. Voilà, oui, en quelques mois, avant de comprendre exactement ce que c'était d'ailleurs le poste. Et puis finalement, oui, c'est ça hein, que je voulais, mais je ne le savais pas.
Oui, moi, il y a 2 ans et demi, je n'aurais pas imaginé que je serais là aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a un moment un peu marquant de votre du coup, début de carrière dans les centres sociaux là, qui vous a donné envie de rester particulier ? Est-ce que vous avez envie de nous raconter ça ?
Moi, je ne sais pas s'il y a un moment particulier, mais je pense que c'est le rapport aux habitants qui m'a fait comprendre qu'en fait c'était important et que du coup ça m'a. Enfin, je pense que le rapport, surtout avec les femmes des quartiers autour du centre social, je me suis sentie à l'aise tout de suite et du coup je me suis sentie à ma place Donc je me suis dit, on va continuer là-dedans.
Moi, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui passent tout le temps et qui me poussent à continuer. C'est, j'ai peint, il y a un moment, genre, j'ai beaucoup de moments, j'ai beaucoup d'exemples, mais je pense que c'est de transformer l'idée en projet concret et voir ces idées deviennent réalité, ce qui pousse à rester dans ce domaine.
Est-ce que vous pourriez nous situer géographiquement et en termes d'action ce que fait le centre social et quel est le type de public auquel il s'adresse, s'il y en a un plus particulièrement ?
Okay. Nous, du coup, on est dans le 14e à Sainte-Marthe. Et après, notre zone de vie sociale, elle s'étend sur plusieurs quartiers. Donc, il y a la Simiane, la Paternelle, Vieux-Moulin-Arnavaux, Vieux-Moulin-Saint-Joseph, la Visitation, les Hauts-de-Sainte-Marthe. J'en oublie.
Oui, villageois de Sainte-Marthe.
Je ne sais pas si j'en oublie. Verbois. Il y a Verbois aussi. Du coup, c'est assez éclaté comme zone. Donc, c'est un peu compliqué d'être sur tous les quartiers en même temps. Enfin, ce n'est pas possible, du coup. Mais on a deux... Il y a le centre social avec les bureaux où il y a l'agent d'accueil qui accueille le public. C'est à Sainte-Marthe, 1 rue Étienne Dolé. Juste à côté de la gare. Et après, on a un local dans le quartier du Vieux-Moulin-Arnavaux où là, on va accueillir le public beaucoup plus pour les ateliers créatifs, pour le club ado, pour des permanences juridiques. Voilà.
Numérique.
Numérique aussi. Et ça, c'est dans un des quartiers. Mais dans l'idéal, on aimerait avoir des locaux un peu partout, mais on ne peut pas.
Je pense qu'on fait partie de. Je pense qu'on est le centre qui a la zone de vie sociale la plus large à Marseille. Mmh. On est sur 10 km carrés. Donc les quartiers sont séparés. Il y a beaucoup de mixité dans les quartiers. Il y a des mixités sociales et même classes sociales aussi. Donc c'est assez différent les gens qui. C'est assez mixte les gens qui viennent chez nous.
Une grande mixité aussi dans les différents axes que vous proposez, en fait. On a parlé de numérique, d'enfance, de... Voilà.
En fait, il y a plusieurs secteurs. Et du coup, moi, mon poste de coordinatrice, c'est un peu de m'assurer que tous les secteurs fonctionnent, tout en m'occupant, moi, du secteur famille. Et après, il y a le secteur, du coup, numérique, avec des formations, avec des permanences. Le secteur enfance, donc avec l'ACM enfants et ados, donc accueil collectif de mineurs, donc avec le centre aéré, pour les enfants et pour les adolescents, donc avec le secteur jeune, le club ado. Et qu'est-ce que j'oublie ? Je sais. Bah après, il y a un médiateur socioculturel aussi, qui va proposer des animations directement dans les quartiers pour les enfants qui, eux, ne sont pas inscrits au centre aéré. Quoi.
Ok. Voilà.
Et le personnel, il est composé de combien de personnes pour couvrir un petit peu toutes ces activités ?
Ah, ça, c'est un peu la galère. On est 9 salariés en permanent. Après, il y a des animateurs qui sont en contrat de courte durée, dans les vacances et les mercredis.
Ok.
Et du coup, vous avez des rôles assez différents, j'imagine. Est-ce que vous pouviez nous en parler un peu plus ? Enfin, surtout, si vous arrivez à nous dire simplement quelque chose qui vous plaît particulièrement et quelque chose qui vous plaît peut-être un peu moins. Ou alors, on peut rester sur le positif uniquement et parler juste de ce qui vous plaît particulièrement.
J'y vais. moi, en tant que coordinatrice enfance-famille, moi, ce que je préfère, c'est être sur le terrain, c'est être... Je sais pas, pour des groupes de parole ou des sorties famille avec les parents, les enfants, mais aussi des sorties uniquement dédiées aux femmes. Même dans les animations de proximité, être avec le public, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, je vais pas parler au nom de tous mes collègues, mais j'ai l'impression qu'on est un peu d'accord là-dessus. Et après, bon, pour parler du négatif, moi j'aime moins justement l'inverse, être derrière mon ordi. C'est moins ce qui me plaît, mais...
C'est une partie.
C'est une partie, quand même.
Ouais, j'imagine, de gestion de projet, un peu. De... et toi, Oussem, est-ce qu'il y a des parties qui te plaisent particulièrement dans ton travail de directeur ?
Alors,
qui te déplaisent un peu plus ?
Ouais, le travail de directeur, il y a beaucoup de tâches administratives, il y a beaucoup de missions qui sont derrière le bureau et on est moins visible dans les quartiers vis-à-vis des habitants. Après, ce qui est bien, c'est quand on voit nos idées se réalisent, quand on écoute le temps que je prends pour l'analyse de la situation, l'analyse des problématiques, des besoins, et qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution, qu'est-ce qu'on a comme moyen, comment on peut faire mobiliser les gens et tout ça. Et c'est ça ce qui est agréable quand on voit que ça marche.
T'arrives à avoir ce contact avec les habitants quand même, à justement savoir que, te rendre compte que tout ce que tu fais derrière ton bureau, ça se traduit dans les quartiers.
On est assez présent dans les quartiers, on a beaucoup d'événements hors les murs et du coup, beaucoup de fois, je participe, c'est une charge de travail énorme, mais je participe tout le temps à des activités hors les murs, je vois les gens, je parle avec les gens.
Tu fais de l'événementiel en plus de l'administratif. Et au niveau financier, comment est-ce que vous réussissez à gérer un petit peu ce côté budget? Qu'est-ce qui vous apporte des ressources financières et où est-ce que vous en dépensez finalement? Qu'est-ce qui vous aide financièrement?
On a des financements fixes, les financements de fonctionnement de centre social. Donc on est dépendant de la CAF, la ville de Marseille, l'État, le département, la métropole. Et après, ça dépend du projet. Il y a des projets qu'on a... Par exemple, on a créé un projet, le projet numérique, là, dans le centre, dans le local de Vieux-Moulin en Avaux, ce qui est un budget énorme pour le centre. Donc, il y a des financements qui viennent d'ici, de là. Et le festival, pareil, ça dépend du projet.
D'accord, donc particulièrement ce projet numérique qui va être financé par un acteur du numérique en local
ou pareil, les partenaires nationaux, mais il y a on dépose des projets partout pour pouvoir faire marcher le projet. Après, on a des difficultés comme tout le monde. On aura bien aimé avoir plus de moyens pour pouvoir couvrir toute la zone de jour. On est présent, mais je pense pas assez. Pas assez pour dans toutes les zones où on travaille. Et pas d'une façon équitable, parce qu'il y a des zones où il y a des gens qui travaillent, d'autres personnes qui travaillent. Là, on est... Il y a de la présence, il y a des zones où il n'y a personne autre. Donc, on ne peut pas être présent non plus tout le temps ici. Donc, il y a des zones où il n'y a personne tout au long de l'année.
OK, où il n'y a aucun autre acteur social qui peut un peu prendre le relais sur des zones où vous avez moins de moyens. OK.
On va passer tout doucement à la partie du nous. En fait, je crois que vous êtes venu nous présenter un petit quelque chose. Donc, je vais formuler ma question en vous tendant la perche. Si vous deviez choisir une action du centre social qui vous tient à cœur, là, ce serait laquelle?
Et bien, sans surprise, ce serait ce qu'on est en train d'organiser actuellement. Enfin, on a ça en tête depuis un moment. C'est la deuxième année où on organise le festival de l'été. Du coup, du 4 au 8 août, on organise un festival avec... je ne sais pas si je raconte tout maintenant.
Vas-y.
Du coup, c'est un festival, c'est sur 5 jours et nous, on a plus que 5 quartiers, donc on a dû choisir. Et donc tous les jours, on va être présent. C'est un festival qui est totalement gratuit et ouvert à tous et toutes. Voilà, c'est pas du tout réservé au quartier dans lequel on est. Tous les jours de 17h à 22h. Et en fait, on va proposer un château gonflable. Il y aura une batucada qui va ouvrir tous les jours le festival. Un artiste graffeur qui va faire des ateliers de graphe tous les jours aussi, qui va nous suivre dans chacun des quartiers. Et après, il y a des DJ aussi qui seront là pour faire l'animation musicale. Nous, on va tenir aussi une buvette avec pizza, smoothie, barbapapa, popcorn, enfin tout pour faire la fête. Et après, tous les jours, on va proposer un spectacle un peu particulier, enfin plus précis. Et du coup, je peux vous faire la programmation.
Avec super plaisir.
Donc, le lundi 4 août, on sera à la Visitation et on va proposer un spectacle de breakdance par l'association Hip Hop Culture. Le mardi 5 août, ce sera un spectacle de magie à la Simiane par les magiciens du Garlaban. Le mercredi 6 août, on sera à Vieux-Moulin-Saint-Joseph. Il y aura un concert de flamenco par la Dagoum Project Family. Le jeudi 7 août, on sera à la Paternelle et il y aura un concert de rap par le rappeur Dika et des invités. On ne sait pas encore. Et on clôturera le festival le vendredi 8 août dans le quartier du Vieux-Moulin Arnavaux avec l'humoriste Malik Fares. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Bah, c'est incroyable en fait, vous allez réussir, vous êtes en train de réussir à faire un festival sur 5 jours quand même, c'est pas rien, sur 5 endroits différents, c'est pas rien, avec à chaque fois des invités différents et bon, des constantes, on l'a compris, de la joie et de la bonne humeur, j'ai hâte d'y être en fait, ça demande pas énormément, c'est un peu une question rhétorique, mais j'imagine que c'est énormément de travail en amont, mais que ça va porter des fruits qui sont... super agréable pour vous, vous allez être à la rencontre de ce public.
Oui, surtout pendant l'été, avec la chaleur et tout ça, et c'est bien fatigant, c'est bien long, il y a toute la journée de préparation et tout ça, toute la préparation en amont et tout ça, ce qu'on dit toujours, c'est de la bonne fatigue.
Oui. Ah oui, c'est sûr. Et vous prenez des congés après, après le 8 août?
Ouais.
Et ben, ça ne m'étonne pas trop. Mais en tout cas, oui, j'ai eu la chance de participer un petit peu. J'avais été bénévole dans un centre social à Fissio, au 5 Avenue. Mmh. Et j'avais pu aider sur un... Bah, c'était une seule journée et j'en étais déjà fini cuit, donc je vous transmets tout mon courage.
Ouais, sur les fêtes de quartier, c'est intense. Voilà. Et du coup, là, c'est 5 petites fêtes de quartier, tout condensé. Mais c'est vrai qu'à la fin de la semaine, du coup, c'est la deuxième année. Mmh. Et la première année, c'était très intense. Puis c'était la première fois, donc on n'avait pas du tout de visibilité sur comment ça pouvait se passer. On a eu de la chance, ça s'est bien passé. Mais à la fin de la semaine, on était KO, mais on était contents. Enfin, moi, je pense que c'est une de mes semaines préférées de l'année quand même, parce qu'au final, on est vraiment avec le public tout le temps, et c'est joyeux. Donc, c'est cool.
Et qu'est-ce que vous avez pu améliorer depuis la première année? J'imagine que voilà, la session crash test, il y a des trucs qui se passent un peu comme ça se passe, et après, on se dit, OK, l'année prochaine, il faut que ça, ce soit plus carré. C'est quoi vos axes d'amélioration?
Donc, la première année, il n'y avait pas beaucoup de partenaires qui étaient mobilisés pour faire ce projet. Là, cette année, il y a beaucoup plus de mobilisation. L'année dernière, on a eu une réussite. On a essayé, on ne savait pas comment ça va passer, ni les résultats. Donc, quand on a réussi, il y a eu un article et tout ça. Donc là, cette année, il y a plus de confiance quand les financeurs sont là à dire OK. Et il y a plus de mobilisation des habitants et tout ça. Cette année, on va faire le tour de 5 quartiers. L'année dernière, on a travaillé sur 3 quartiers. 5 jours, mais sur 3 quartiers, du coup. On avait moins d'offres de spectacles. Il y avait 2 spectacles qu'on a répétés dans tous les quartiers. Donc, c'était
un peu moins varié.
Ouais. Là, cette année, il y a plus de variété, il y a plus de gens des quartiers qui travaillent dans le festival.
Super, ils travaillent à l'installation par exemple de tout le matériel qui est nécessaire pour les scènes et les trucs comme ça.
Et même les artistes.
Ah ouais, il y a des artistes locaux, ouais. Ouais, ça c'est super. Et qui c'est qui fait la programmation?
On le fait un peu en équipe. On essaye de... Comme on travaille sur d'autres choses aussi et que c'est pas notre unique projet, on est un peu tous et toutes... dessus et on va piocher un peu à droite à gauche, on cherche, on savait qu'on voulait pas proposer par exemple 5 concerts, ça faisait pas beaucoup de sens, donc après il fallait chercher qu'est-ce qu'on voulait. La magie, ça fonctionne bien sur les enfants parce que évidemment faut que ce soit adapté à tout public, parce que on va avoir des enfants qui ont 2 ans, des seniors, des ados, donc pour que personne ne s'ennuie.
La magie c'est bien
la magie ça fonctionne bien. Et après, c'était un travail d'équipe aussi là-dessus. On est tous en train de voir ce qu'on met en place.
Et donc, vous avez à minima 5 artistes phares, quoi, tête d'affiche, plus des invités, plus j'imagine des activités un petit peu annexes autour. Il y a des buvettes, des bars, il y a
des techniciens qui doivent faire tout le travail de montage, des
montages. C'est nous les techniciens.
Ok,
C'est nous.
Ok. Ma question, dans le fond, c'était, est-ce que c'est un projet qui est financé de la même manière que les autres? Et tu me parlais de financeurs et de partenaires. Mm-hmm. Ça, c'est un des points qui a mieux marché que l'année dernière. Donc, vous êtes indépendant à ce niveau. Enfin, le niveau financier, ça, c'est, tout est réglé pour ce festival. Il est...
Oui, cette année, on ne va pas se plaindre. Après, on n'a pas trop de visibilité avant, quand on est en train de faire la programmation, ce qui rend les choses un peu plus difficiles, parce qu'on est en train de négocier avec les prestataires, on est en train de négocier avec les artistes, on est en train de réfléchir à ce qu'on met en place et tout ça, et chacun imagine quelque chose, et chaque chose qu'on imagine, il a un prix. Mais donc, oui. On est en train de faire un budget des fois énorme, et des fois, on s'adapte. Là, cette année, ça a bien passé. C'est bien passé. Donc, on a pu faire tout ce qu'on a l'envie de faire. Donc, on a eu des financements pour faire tout ce qu'on a l'envie de faire.
En payant ces artistes, magiciens et compagnie, c'est super. Ouais. C'est super. Et vous avez des bénévoles aussi qui vous aident ?
Oui, on aimerait en avoir plus. Mais il y a dans les habitants aussi des personnes qui viennent avec nous, qui nous soutiennent sur ces projets. Après, c'est quand même en août. Et en août, il y a moins de personnes. Donc, on est surtout nous quand même.
OK.
Après, ce qui était bien l'année dernière, pareil qu'on a dû faire, l'année dernière, le premier jour, on a fait un événement. Donc, il y a des habitants qui étaient dans le quartier qui... Ça les a plu, donc ils voulaient continuer. Donc, ils ont continué avec nous les autres jours. Et ils ont commencé à faire de bénévolat. Donc, c'était eux qui tenaient les buvettes, les machines, tout ça. Donc,
c'est un moyen pour eux aussi de prendre confiance dans les autres habitants du quartier, j'imagine, prendre confiance en vous.
En fait, c'est aussi l'objectif de... être tous les jours dans un endroit différent et proposer tous les jours quelque chose de différent. Parce que dans l'idéal, nous, on a envie que les gens ils nous suivent aussi, qu'une personne qui était à la visitation le lundi puisse revenir tous les jours si elle a envie et découvrir des nouvelles choses, découvrir d'autres habitants, voir d'autres quartiers, voir qu'ailleurs, c'est bien aussi. Et puis, de façon festive, ça fonctionne toujours mieux.
C'est vrai. Ouais.
J'en profite peut-être juste pour vous inviter, si jamais vous voulez donner des détails de, par exemple, Anna, tu disais que vous voudriez plus de bénévoles. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent bénévoler avec vous, comment ils font, comment ils s'inscrivent ?
Eh bien, venez, avec plaisir. Nous, on a des réseaux sociaux, donc CCO Sainte-Marthe sur Instagram, Facebook, Snap. On a une page YouTube, on a TikTok. On a tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, vous pouvez aussi directement venir nous voir au centre social ou nous appeler. On répondra avec plaisir dans tous les cas.
Et la programmation du festival, elle est en ligne aussi ?
Je ne sais pas si elle est déjà en ligne. On est sur...
Non, pas encore.
Elle sera en ligne. Oui.
Chouette.
Il y aura toutes les informations avec plus de détails encore. Parce que j'ai peut-être oublié des choses, mais dans l'idée, tout est là.
Moi, j'ai une question. Alors, je reviens un petit peu parce qu'on a déjà pas mal parlé. Enfin, on a un petit peu parlé de l'évolution du festival, mais comment elle vous est venue cette idée ? Parce que c'est incroyable quand même de se dire je vais organiser un festival sur une semaine avec les moyens du bord et en mobilisant la population.
Alors, ça, c'était moi au départ. Parce qu'il y avait beaucoup de petits événements dans les quartiers où on travaille, mais il n'y avait pas trop de mixité dans ces événements. Donc, chaque quartier, il fait un événement et c'est plutôt les habitants de quartiers qui sont là. On n'entend pas trop parler, on n'entend pas... Et nous, on était l'équipe de centre social parce que c'est notre zone de vie sociale. Donc, on doit être là et on a l'envie d'être là à chaque fois qu'il y a un événement. Donc, à la fin, en réfléchissant, on s'est dit pourquoi pas faire un événement toute la semaine, chaque jour dans un quartier différent avec une offre culturelle un peu plus riche et des habitants du quartier, amener de la mixité pour voir des artistes, de ce quartier-là, ce qu'on peut faire aussi dans les quartiers. Donc, et l'idée de le faire sur 5 jours, c'est aussi de faire mobiliser les habitants de chaque quartier avec nous dans l'autre quartier pour créer un peu de mixité avec les voisins. Mmh. Et c'était comme ça imaginé l'année dernière et ça a mieux fonctionné de ce qu'on avait imaginé. Donc on a relancé l'idée.
Trop bien.
Au début, ça nous paraissait... moi, je vais parler en mon nom. Moi, ça me paraissait un peu ambitieux de se lancer là-dedans. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Et c'est pour ça que là, on est reboosté pour cette année. Et puis, pourquoi pas pour l'année prochaine et pour faire grandir, grandir le festival comme ça, quoi.
Et vous voyez du coup peut-être que les gens des différents quartiers qui se retrouvent dans votre centre se connaissent mieux suite à ce moment-là, j'imagine.
Ouais, enfin moi je trouve on le voit vachement au niveau des ados.
Okay.
En fait, les ados des différents quartiers qui connectent, j'ai l'impression que c'est plus simple quand on est, quand on est enfant, mais ça fonctionne aussi à ce niveau-là. Des ados d'un quartier qui sont venus parce qu'ils ont reconnu un animateur et bref, et au final maintenant le club ado il est constitué d'enfants qui viennent de plein de quartiers différents, donc c'est chouette.
Trop cool, ouais. Ça leur change, ça leur permet de nouer des relations qui sont aussi différentes, mine de rien. Parce que c'est vrai que, je vais parler en mon nom, mais j'ai l'impression que j'avais un peu la bande de copains du basket, la bande de copains de la musique, et puis la bande de copains du lycée, quoi. Et pas spécialement dans mon quartier, ou alors c'était les gens que je rencontrais au lycée, quoi. Ok, j'avais une petite question encore concernant... Qu'est-ce que, un petit axe d'amélioration. Si on vous donnait un petit coup de pouce aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de rajouter dans ce festival?
Il y a beaucoup de choses, je pense. Déjà à la mobilité, c'est-à-dire là, si on va faire des événements et qu'on a vraiment l'ambition d'amener des gens pour créer de la mixité dans les quartiers où on travaille, un peu plus de transport peut-être qui peut servir aux gens pour venir assister à cet événement.
C'est vrai, c'est un bon point. Je n'avais pas pensé, parce que j'imagine qu'il y a relativement peu de transports en commun d'un quartier à l'autre et en soirée, peut-être plus du tout.
Mais en fait, d'un quartier à un autre, en soi, on peut presque le faire à pied, pas à chaque fois. Mais nous, dans l'idée, ce serait de faire venir aussi des personnes qui ne viennent pas du tout du 14e, mais même du centre-ville, et de leur montrer que... C'est aussi ça, le 14e. Et du coup, dans ces cas-là, là, c'est compliqué parce qu'évidemment, il n'y a pas de bus passé, je ne sais pas quelle heure, mais c'est plus compliqué. Et après, d'un quartier à un autre, je crois que ça va.
Et c'est aussi de donner de la confiance aux habitants, de dire que les bonnes choses ne passent pas que chez les autres. Mmh. Ça passe aussi chez nous. Ouais. Donc, les gens, ils viennent aussi nous voir chez nous, voir ce qui se passe aussi chez nous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, exactement dans cette lignée, comment est-ce qu'on peut communiquer? Comment est-ce que vous avez des stratégies de communication à destination des gens du centre-ville pour qu'ils puissent se rendre à ce festival de l'été?
Alors, nous, par rapport au quartier, on est un peu... je pense qu'on est assez réaliste sur la question. Donc, on sait comment ça se passe et tout ça. Donc, on essaye de s'appuyer sur les artistes qui sont avec nous, de mobiliser leurs amis, leur cercle d'amis. Et je pense, entre le premier jour, vous allez voir si vous assistez, entre le premier jour et le dernier jour, déjà, ça va augmenter le nombre de participants parce que les gens vont commencer à entendre parler et tout ça. Et je pense d'ici 4-5 ans, si on continue ce même rythme, mais si on commence petit à petit, ça peut créer un événement vraiment qu'on entend parler et que ça fonctionne et ça amène les gens et ça amène les institutions à créer de la mobilité vers ces quartiers.
Si à ces fins, vous aviez un petit moment fort à nous partager sur l'édition de par exemple, de l'année dernière ou même dans la préparation de celui de cette année, est-ce qu'il y a un moment qui vous a un peu touché, un peu marqué?
Ben oui, c'était le dernier concert dans le festival quand on a lâché tout. Tout le monde, ils ont lâché tous les stands et tout ça et tout le monde, ils ont commencé à danser. Il y avait des gens de partout, des quartiers où on a fait le tour. Donc, il y avait un bon mixité à ce moment-là et tout le monde, il n'y avait plus personne qui travaillait. Tout le monde, ils étaient en train de danser. Donc,
On a un peu lâché la pression aussi. Le dernier jour, on était contents. Il ne s'était rien passé de grave. Donc, ouais.
En fait, à vous entendre en parler, j'ai l'impression d'être en festival de musique, mais de passer 3 jours à ne pas dormir, à écouter de la musique, et à la fin, que tout le monde finit par se connaître, et tout le monde finit fatigué aussi, évidemment, mais de la bonne fatigue. J'ai un peu l'impression que c'est ce que vous racontez là, et ça fait sourire.
C'est l'objectif. Vraiment, si ça fonctionne comme ça cette année, ça veut dire qu'on va pouvoir le continuer encore... dans les années à venir.
Parfait. On va arriver tout doucement sur le milieu de l'émission. Donc en général, on va vous proposer une petite pause musicale et vous avez choisi un petit morceau. Est-ce que vous avez envie de nous en dire deux mots?
On a choisi la chanson des Enfants des Quartiers Nord, qui est une comptine qui a été écrite. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais ça a été, je crois, écrit dans un cours de musique au collège Massenet. Et le collège Massenet, c'est le collège qui est dans notre zone de vie sociale. Et c'est une musique assez joyeuse et en même temps qui soulève, je ne vais pas dire des problématiques, mais c'est intéressant. je vous laisse l'écouter.
On se retrouve après la pause.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
Pierrette partait avec son bidon de lait.
Pierrette partait avec son bidon de lait.
Dans une ferme tout près de la forêt.
Dans une ferme tout près de la forêt.
Adieu vaches et cochons.
Adieu vaches et cochons, ferme et forêt.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Pierrette achète son lait au supermarché.
Si tu veux te construire une belle villa.
Si tu veux te construire une belle villa.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi.
Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi.
On dit que c'est un quartier mal fréquenté.
De retour sur Radio Galère dans l'émission de la Forêt des Possibles 88.4. Nous sommes avec Oussam Sgep et Anna du Centre Social Sainte-Marthe. Et je m'excuse Anna, j'ai oublié ton nom de famille.
Canales.
Et vous venez nous présenter un petit peu ce festival que vous êtes en train d'organiser du 4 au 8 août qui va se dérouler du coup dans 5 quartiers sur 5 jours, dans 5 quartiers différents. On va passer tout doucement à la partie du tout, c'est-à-dire une partie où on va réfléchir ensemble à ce qu'apporte votre initiative au sein de positif pour la société. Moi, je vais commencer par une question qui est un petit peu tournée autour du quartier, mais des quartiers que dans lesquels vous êtes implantés. Et quand vous les voyez, ces quartiers, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Qu'est-ce qui, à l'inverse, vous chagrine un petit peu?
Alors, ce qui, je pense que c'est la problématique principale dans ce quartier, c'est la jeunesse. Il n'y a pas d'offres, il n'y a pas assez d'emplois pour les jeunes dans ce quartier-là. Il n'y a pas de transport pour aller travailler ailleurs. Il n'y a pas assez d'offres culturelles. Pareil, il n'y a pas de transport pour aller assister à des spectacles ailleurs. Donc, ce qui... Et les gens qui ont vraiment besoin aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a besoin d'espoir pour rester dans ces quartiers, pour rester dans cette zone. Ce qui donne l'espoir, c'est que là, aujourd'hui, à chaque fois qu'on propose quelque chose, il y a une vraie mobilisation, il y a un vrai engagement de la part des habitants pour travailler, pour améliorer les choses.
Donc une problématique tant du fait de garder les gens dans le quartier que de les, enfin comment dire, ouais, de les garder dans le quartier pour les activités, des activités socioculturelles et de travail tout simplement, hein, et en même temps de pouvoir juste pouvoir partager en fait ces activités-là avec les quartiers un peu plus centraux peut-être.
En fait, l'idée c'est vraiment ne pas les garder dans leur quartier, mais proposer quelque chose que ça soit équitable avec l'extérieur. C'est-à-dire que même dans mon quartier à moi, il y a du travail pour les autres. Il y a des gens qui viennent travailler chez moi. Il y a des gens qui viennent assister à un spectacle. Que ces gens-là, ils sont la majeure partie des quartiers nord, et on est condamné à rester dans le quartier et à ne pas avoir une offre. On ne peut pas créer un théâtre dans chaque quartier. On ne peut pas créer mais il n'y a pas il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de mobilisation vers l'extérieur. Et il n'y a pas d'offres dans les quartiers de travail ou de pour les gens qui viennent de l'extérieur.
Et cette mobilité, finalement, elle va mener à la mixité dont tu nous as pas mal parlé, en fait, quand on parlait du festival, quoi.
Oui, l'idée de ce genre d'événement, que le festival, autre projet, nous, on part toujours du principe qu'il faut créer un projet qui amène les gens de l'extérieur et qui amène les gens vers nous et qui amène les gens qui sont chez nous vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va penser à un projet, par exemple... un projet numérique ou un projet de mobilisation vers l'emploi, on pense comment faire sortir la personne à l'extérieur de quartier. Et on pense comment créer une activité, par exemple, qui attire les gens de l'extérieur pour venir chez nous.
Anna, une...
Non, pas spécialement. Je suis d'accord.
Ça marche.
Moi, en parlant de l'émission de ce soir autour de moi, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un centre social qui s'est récemment créé dans le 14e, qui s'appelle Mariposa.
Ah oui.
Et je me demandais du coup, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre activité au quotidien? Est-ce que c'est un autre acteur avec lequel vous interagissez? Est-ce qu'il y a des moyens de mettre des choses en commun, de faire des actions communes?
Oui, c'est le centre de santé qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Du coup, avant même de s'implanter, ils sont venus nous rencontrer, ils ont rencontré les partenaires associatifs du quartier. Et nous, après, l'objectif, c'est aussi de, avec eux, et même avec les habitants, du coup, les faire connaître. Il y a eu la journée...
L'ouverture.
La journée d'ouverture, oui. Où on a essayé de faire venir des habitants pour leur montrer qu'en fait... Parce que l'inconnu, ça fait toujours un peu peur. On n'a pas forcément envie d'y aller, surtout quand c'est des personnes qui viennent. Pas vraiment aussi pareil du quartier, donc nous, notre objectif c'était aussi de emmener certains habitants avec des enfants jusque dans le centre et en leur montrant que c'est vraiment juste à côté. Donc ça c'est chouette. Je sais pas actuellement s'ils ont beaucoup de rendez-vous, mais je sais que certaines familles avec lesquelles je m'y suis rendue la dernière fois étaient très contentes de pouvoir trouver un rendez-vous pour un orthophoniste pour leur enfant, alors qu'en fait c'est galère sinon de trouver. Il faut aller loin, alors que là, c'est vraiment juste à côté. Donc, moi, je pense que pour nous, c'est positif.
Alors, pareil, comme le travail ou l'offre culturelle, la question de santé, c'est pareil. On était obligé de faire un voyage pour accéder à un service médical. Là, aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle Collectif Enchanté qui gère ce centre. Ils sont principalement des médecins et d'autres personnes qui travaillent dans le social et tout ça, qui ont lancé cette idée. Ils ont travaillé. C'est un très, très bon projet. C'est bien utile pour nous et pour les gens du quartier. Il y a une vidéo sur nos réseaux sociaux. En fait, nous, on a un groupe des jeunes qui font des... Il y a un projet qu'on appelle projet multimédia. Il est coordonné par Andrea, qui était censé être avec nous aujourd'hui. Ce projet, c'est des jeunes qui sont en train de faire des reportages sur des événements ou des choses de quartier. Il y a plusieurs reportages qui ont été faits sur les quartiers et ils ont fait un reportage sur le centre Marie-Bozac et sur nos réseaux sociaux. C'est
ah, super.
N'hésitez pas à aller voir.
Bah, ça touche à ma question suivante. C'est comment est-ce que justement les gens du quartier peuvent se réapproprier ce quartier, peuvent lui redonner de la vie
Alors, il faut déjà les redonner de confiance que c'est vraiment leur quartier, c'est les appartient, c'est eux. Donc, il y a des endroits où on est en train de réfléchir avec des habitants, avec des autres acteurs dans les quartiers. Il y a des endroits, par exemple, en train de réfléchir comment...
créer des associations d'habitants.
Comment créer des projets de... En fait, il y a, par exemple, le noyau villageois de Sainte-Marthe. Là, aujourd'hui, c'est un parking. Il n'y a pas d'offres. Il y a rien, là. Quelques commerces. Et donc, l'idée, c'est de créer végétaliser cet endroit, créer un espace où les gens elles peuvent se rencontrer, parler entre eux, avoir une offre, avoir un air de jeu pour les enfants, avoir quelque chose de culturel le soir, que les gens elles peuvent se réunir autour et penser à leur quartier. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi d'aller voir cette zone-là, qu'est-ce qui se passe le soir.
C'est créer des espaces agréables de partage, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, pour se réapproprier le quartier, s'il n'y a pas grand-chose dedans, on a beaucoup moins envie. Alors qu'en fait, si... juste des tables à côté d'une aire de jeu pour les enfants, pour que les parents puissent s'asseoir et discuter. Déjà, c'est un espace de partage et de rencontre, parce qu'en plus, en fonction de où c'est, parce qu'évidemment, chaque quartier n'a pas toutes les mêmes problématiques, en tout cas là où on travaille, mais c'est clair que s'il y a des endroits stratégiques entre les quartiers ou même à l'intérieur, il y a des endroits comme ça, mais même juste un terrain de pétanque, ça peut juste être un endroit où on se retrouve. Et puis on échange. En fait, nous, ce qu'on propose, ça, c'est qu'un plus. Enfin, dans l'idée, on n'a pas envie que ce soit juste les sorties famille où les familles se parlent. Enfin, si elles peuvent aussi, juste à l'extérieur, discuter, échanger sur leurs problématiques, c'est encore mieux si c'est chez elles et eux.
Mmh, bien sûr. Est-ce que... Alors, ça, c'est une question assez large, mais est-ce qu'il y a dans le coin, un projet qui vous inspire particulièrement?
Nous, on n'est pas très loin de l'après-m. Mmh. Du coup, l'ancien McDo qui a été repris. On trouve que c'est un beau projet. On y va de temps en temps. Et dans l'idée, on s'est déjà même posé la question de voir comment construire des projets avec. Alors, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est un projet qu'on trouve chouette. Voilà.
C'est un projet, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission il y a au moins 2 ans. Donc possiblement, je dis une bêtise. Mais je n'étais pas là à l'époque, mais je l'ai vu passer en le chargeant sur Spotify. Donc voilà, oui, un projet qui est super intéressant, qui est de se réapproprier aussi, vraiment dans l'esprit de ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, se réapproprier ce quartier et d'en faire quelque chose de plus positif pour les habitantes et les habitants.
Par et pour les habitants, en fait. Il y a ça aussi. Que ce ne soit pas que des personnes extérieures qui viennent leur montrer comment... améliorer entre guillemets le quartier, mais que ça vienne d'eux, parce que c'est chez eux en fait.
Oui, et là, pour le coup, ça a été repris par des gens du quartier et ils fonctionnent beaucoup avec de l'insertion professionnelle, j'ai l'impression aussi. Ouais. Big up à l'après-m.
Oui. Alors, on va tout doucement aller sur la fin de cette émission. Vous avez déjà un peu partiellement répondu, mais peut-être que vous pouvez nous rappeler comment les gens peuvent découvrir vos activités ou vous venir vous trouver pour éventuellement bénévoler avec vous.
Du coup, on est très présents sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. On essaye de faire des posts régulièrement, donc n'hésitez pas. Je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, cco.sainte.marthe, M-A-R-T-H-E. Et normalement, il y a quand même pas mal d'informations sur ce qu'on fait. Du coup, après, même si vous tapez Centre social Sainte-Marthe-la-Paternelle sur Google, vous trouverez nos coordonnées. Alors appelez-nous.
Et d'ailleurs, tu nous as parlé, tu peux peut-être nous rappeler un petit peu rapidement quels sont vos champs d'action, parce qu'ils sont quand même assez multiples.
Oui, il y a différents secteurs. Du coup, moi, je gère tout ce qui va être le secteur famille, donc je ne sais pas si je dis en détail ou juste les différents secteurs.
Comme tu le sens.
On a encore du temps. Bon, alors du coup, dans le secteur famille, il va y avoir des sorties. Alors, ça peut être des sorties au musée comme des sorties à la journée. Là, dans 2 jours, on part au lac de Pérol toute la journée. Il y a des ateliers créatifs, des ateliers de jeux de société. En fait, c'est aussi un peu du soutien à la parentalité, que de montrer que ce n'est pas juste en faisant les devoirs qu'on peut passer un moment avec ses enfants. Il y a des groupes de parole, on essaye de faire des ateliers cuisine. Après, il y a le secteur numérique, du coup, avec des formations.
Il y a plusieurs choses dans le secteur numérique. Oui, les formations qu'on propose aux habitants qui n'ont pas l'accès au numérique. Et donc, on propose aussi à la fin de la formation un ordinateur reconditionné pour que la personne puisse accéder. On propose aussi des permanences pour les gens qui ont besoin d'aide pour aller soit faire leur démarche et tout ça. On a un secteur e-sport, on a une salle e-sport, parce que dans les quartiers nord, il y a des zones où les habitants, ils préféraient que leurs enfants soient devant l'écran qu'aller voir à l'extérieur, question de sécurité. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont habitués à rester devant l'écran. Donc, on a pensé à une activité qui fait OK. On est devant l'écran, mais en groupe.
Comment on peut l'utiliser au mieux ?
Trop bien.
Et on a un Fab Lab, donc les gens ils peuvent venir fabriquer quelque chose, des souvenirs. La plupart du temps, c'est des souvenirs pour les enfants, pour les ados, qui peuvent les amener avec eux à la fin. Et on a le fameux projet de multimédia, là, où il y a un groupe des jeunes qui sont formés par 2 journalistes aujourd'hui. Et après, le projet est coordonné par Andrea. Il y a Juan aussi, qui est membre de l'équipe, qui les accompagne. Et l'idée, c'est de créer des vidéos, des reportages sur des questions qui passent dans les quartiers et transmettre à l'extérieur.
C'est super, ça. C'est incroyable. C'est vraiment très inspirant parce que du coup, c'est une manière de se réapproprier, de documenter ce qui se passe chez soi et de le transmettre. Et aussi, j'imagine que ça crée des vocations, des passions. Ça doit être hyper addictif, en fait, de pouvoir... toucher ce genre de matériel et faire du montage vidéo et tout. J'adore.
Je crois que ça fonctionne pas mal en ce moment. Oui, et tout ça, c'est avec le... Pardon. C'est avec le secteur jeune. Du coup, on essaie de proposer vraiment des choses variées, avec soit du sport, du multimédia aussi, juste pour leur montrer tout ce qu'il y a. Parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir remplacer le club de foot, le club de machin. Mais du coup, faire un petit peu de tout au niveau du secteur jeune. Et pareil pour la CM enfant. Il propose aussi plein d'activités les mercredis et pendant les vacances.
Donc ça, c'est centre aéré.
Oui, centre aéré, mercredi, vacances. Et après, on fait aussi, je crois qu'on n'en a pas parlé, de l'accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collégiens, du coup, tous les soirs. Donc, pareil, s'il y a des bénévoles sur ça, on a toujours besoin d'aide pour encadrer et puis accompagner au mieux des enfants qui ne peuvent pas forcément être aidés à la maison parce que les parents n'ont pas le temps ou juste ne peuvent pas. Du coup, primaire, collège et peut-être un jour lycéen aussi, parce que pour les accompagner pour le bac, ils en ont besoin. Voilà.
En tout cas, c'est super inspirant de voir des activités. Là, vous avez parlé d'e-sport, on a parlé là d'Instagram, de réseaux sociaux. C'est quand même pas des activités qui sont courantes, il me semble, dans les centres sociaux. Peut-être que je me trompe, mais...
Non, et en fait, il y a une idée, surtout dans le social, quand on essaye de lutter un peu contre l'écran et tout ça. Donc, il n'y a pas trop de centres qui travaillent sur les questions du numérique. Nous, on a pensé que non, il y a... les parents, ils ont l'envie que leurs enfants restent devant l'écran pour les protéger. Donc, OK, on les garde devant l'écran, mais on pense...
C'est pour les responsabiliser aussi, ouais.
On pense en groupe. Donc, l'idée, c'est vraiment de toujours, on va pour chaque idée, pour chaque projet, on va vraiment d'un constat, d'un besoin de ce qui se passe sur le terrain ou avec les habitants, et on propose une solution. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche.
Donc, ça marche toujours.
Le but, c'est que ça marche toujours. Mais de toute façon, il faut essayer. Et puis, bah, parfois, c'est pas grave. On fait autre chose si on s'était trompé.
Ah oui. Alors, pour clôturer cette émission, je vous propose une petite phrase ou une idée qui vous motive chaque jour, tous les deux.
Qu'est-ce qui me motive chaque jour? Je sais pas, moi. Je pense que l'idée qui me motive chaque jour, c'est de... Bah, je vais me répéter, hein, mais c'est d'être au contact des habitants. Et en fait, de savoir que ce que je fais, ça fait écho à des personnes vraiment concrètement. Et que c'est pas juste moi, dans mon petit bureau, qui dit « Ah tiens, si j'allais faire cette sortie-là. » Mais qu'en fait, concrètement, oui, je crois que c'est ça.
Moi, je me sens très fort quand je réfléchis à quelque chose et que je vois que cette chose se réalise devant moi. Donc, j'aime bien réfléchir, analyser, faire, genre dire que ça, il faut que ça soit comme ça. Quand c'est comme ça, c'est agréable.
La matérialisation dans le physique, dans le concret de ses rêves et ses espoirs les plus fous.
C'est ce qu'on a vu avec ce festival d'ailleurs. Parce qu'au début, c'était vraiment que de la théorie. Et puis finalement, ça a marché.
Bah, bravo, de belles idées qui germent dans vos cerveaux.
Et sur cette petite question un peu finale, mais en fait, je vous ai menti, c'est pas la dernière. On a ici l'habitude de poser une petite question surprise. Et donc, pour ça, je vous invite à fermer vos yeux et à vous projeter dans 10 ans. Donc on sera en 2035. On sera en 2035 dans les quartiers dans lesquels vous créez ce beau festival pendant toute une semaine. Et je voudrais que vous imaginiez ces quartiers dans 10 ans. Ces quartiers, si tout s'était bien passé, si le centre social avait accompli sa mission, si vous aviez réussi à créer du lien entre les gens, un peu plus de lien, si... tous ces axes d'amélioration dont on a parlé aujourd'hui pour ces quartiers nord avaient pu fleurir. Qu'est-ce que ça donnerait ?
Il y aurait plein de monde partout. Il y aurait plein de transports. Je sais pas, il y aurait vraiment du monde partout. Moi, du coup, je l'imagine un peu comme ça. Vraiment qui joue sur la place. Puis peut-être...
La place, à quoi elle ressemble la place ?
Ouais. Je sais pas, il y a plein de... Je sais pas, c'est joyeux. Il y a plein d'arbres, il y a plein d'enfants qui courent partout et on ne s'inquiète pas parce que de toute façon tout le monde check. Je pense que je le vois comme ça.
Un peu plus de jardins, de transports, un peu plus de mixité, qu'il n'y aura plus de quartier avec une seule communauté, que ce soit vraiment mixte, que ça soit... et que les gens vraiment arrivent à croire que ça les appartient.
Donc toujours plus de verdure, plus d'accès à ces quartiers-là, et plus de mixité, plus de liens sociaux, j'imagine.
Oui, entre eux.
Et qu'on n'aura pas besoin d'annoncer et d'essayer de médiatiser notre festival, que ça soit vraiment quelque chose, un événement attendu, qu'on n'a pas besoin de parler avant.
Qui sont sold out. Ouais. Ah, peut-être vous aurez des gens à refuser en 2035.
On n'espère pas.
En tout cas, on a hâte de voir ça. Et Oussam, Anna, c'était un plaisir de vous recevoir à l'antenne de Radio Galère dans l'émission de La Forêt des Possibles ce soir.
Merci à vous.
Merci
Elissa, merci Jeanne qui est en régie.
Merci Cass pour cette apparition en régie ce soir.
Et merci Roxane aussi. Hein, qu'on a
oui, merci
à
Roxane.
Qui on a fait du coucou, et qui est là en régie avec eux. Voilà, c'était tout. C'est tout pour nous ce soir. On rend l'antenne. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.